Bonjour à tous, à vous qui êtes là. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en ligne. On sait qu'il y a nos amis de Novi Sad qui sont là aussi ce matin, les amis francophones de quelque lieu que vous soyez. On vous salue vraiment de ce lieu ici à Strasbourg, à l'EPI, l'église internationale, où nous nous retrouvons ce matin d'abord pour un temps de culte, mais aussi suivi de notre assemblée générale. Avant de louer le Seigneur tous ensemble, écoutons ce que dit ce psaume 24, dans lequel le psalmiste dira « Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. » Et si ce matin on pouvait ouvrir nos cœurs comme des portes et dire « Seigneur, nous voulons te rencontrer. Nous sommes venus pour te rencontrer, pour te louer, pour te prier et pour vivre un moment important devant toi. » Non seulement vivre un moment important, mais aussi être renouvelé dans notre foi et dans notre vie chrétienne. Que Dieu conduise et bénisse ces moments. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, comme ce psalmiste qui invitait à ce que les portes soient grandes ouvertes, nous voulons ce matin ouvrir grand les portes de notre cœur, notre esprit, être attentif à ce que tu voudras bien nous dire. Nous sommes venus pour toi, nous sommes venus pour te louer, te rencontrer, mais aussi rencontrer nos frères et sœurs. Et tous ensemble, nous sommes là pour te louer et te célébrer et te rendre l'hommage qui t'est dû. À toi donc toute notre louange. Amen. Que Dieu vous bénisse.
le bienvenu parmi nous, Seigneur. Nous chantons à la gloire de ton nom, du ressuscité. Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous chantons à la gloire de ton nom, du ressuscité. Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous sommes venus pour te louer, rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le
Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voulons une fois de plus t'élever, t'adorer. Ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais.
À
toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom.
Ce nom est victorieux,
ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Il y a puissance dans le nom de Jésus.
Il y a puissance dans le nom de Jésus.
Il y a puissance.
Il y a puissance dans le nom de Jésus.
Pour
briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes.
Il y a une armée,
il y a une armée qui se lève.
Il y a une armée.
Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes.
Pour briser les chaînes,
pour briser les chaînes, pour briser les chaînes.
J'entends
les chaînes tomber.
J'entends
les chaînes tomber.
J'entends les chaînes tomber.
J'entends les chaînes tomber.
J'entends les chaînes.
J'entends les chaînes tomber.
J'entends les chaînes.
J'entends les chaînes tomber.
J'entends les chaînes.
J'entends les chaînes tomber.
Il y a puissance.
Il y a puissance dans le nom de Jésus.
Il y a
puissance dans le nom de Jésus.
Pour briser
les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes.
Pour briser
les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes.
La terre a tremblé,
le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché.
Les cieux
chantent ta gloire, écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité.
Tu es sans rival,
tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais.
À
toi soit le règne. À toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom.
Ce
nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus.
Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux.
Le nom de Jésus-Christ, mon roi.
Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux.
Le nom de Jésus.
Ce nom est victorieux.
Le nom de Jésus.
Voilà, un grand merci à Eric et à toute l'équipe pour ce temps de louange raccourci, puisque, comme vous le savez, à l'issue de ce culte, nous aurons notre assemblée générale. Donc, quelques annonces rapides avant de laisser la place à PS pour ce deuxième message sur les 7 signes qui stimulent notre foi. Alors, est-ce qu'il y a des hommes dans la salle ? Est-ce que vous pouvez vous manifester ? J'en vois quelques-uns, quelques mains qui se lèvent. J'ai une invitation pour vous. C'est le samedi 10 octobre de 14h à 17h. On aura notre troisième conférence Ironman. Je ne sais pas si on peut afficher le visuel. Donc notre troisième conférence Ironman sur le thème « Fortifie-toi et prends courage ». On aura avec nous le pasteur Jérémy Poulet, qui est pasteur à l'église Momentum à Bordeaux, qui est le pasteur des soins pastoraux et du discipulat de l'église. Il est aussi l'auteur du livre « Soyez des hommes ». Donc on a pris juste une après-midi, parce qu'avec le masque toute la journée, c'est pas simple, mais on s'est fixé un temps de 14h-17h pour pouvoir nous encourager ensemble. C'est pas parce qu'il y a le Covid que notre discipulat, il est terrassé. Et je crois qu'en tant qu'homme, on a besoin aussi de s'encourager, de se tenir dans la parole de Dieu ensemble pour relever le défi qui est là devant nous. Donc, si vous voulez vous inscrire, ce sera à partir de cet après-midi, mais plutôt demain. Sur le site internet de l'EPI, il y aura un visuel. L'entrée, elle est gratuite. Il y aura juste à réserver votre billet comme pour le culte. Voilà pour les infos au niveau de la conférence. Le même samedi matin, avec Jérémy Poulet aussi, on aura un temps avec tous les leaders de l'Église. Donc tous ceux qui sont engagés dans une responsabilité, dans un service, quel qu'il soit à l'EPI, vous êtes invités le samedi matin avec nous. Je pense que ça sera à partir de 10h, mais on vous redira ça la semaine prochaine officiellement. Mais en tout cas, un temps aussi de leader, un temps sur le leadership. On veut aussi prendre du temps ensemble, parce que avec ce Covid, on s'est retrouvés tous un petit peu éloignés. Mais on croit que l'Église, elle est debout et on a des défis à relever devant nous. Donc vraiment un temps aussi d'encouragement, où on va chercher ensemble la face de Dieu et la direction aussi pour l'Église, pour cette année qui arrive. Donc voilà pour les annonces en ce qui concerne Jérémy Poulet. On aura aussi la reprise d'épisodes à partir du dimanche 4 octobre pour les 4-11 ans. Voilà les infos et Paes, je te laisse toute la place.
Un, deux. Le temps de mettre les choses en place et c'est bon. Vous allez bien ? Oui, ça va ? Je me fais un peu de place, excusez-moi, parce que, comme vous le savez, j'ai tendance un petit peu à bouger. Un petit peu. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Est-ce que tu peux juste regarder ton voisin et comme tu n'as pas le droit de lui serrer la main, tu peux juste lui dire « Salut, je suis content de te voir ». Je sais que c'est un peu compliqué, un peu contraignant, mais on sait que malgré les circonstances peut-être un peu défavorables, un peu complexes, eh bien on sait que lui, Dieu, n'a pas raté le rendez-vous. Et j'aimerais, avant de commencer à prêcher, qu'on puisse simplement préparer nos cœurs au message, qu'on puisse vraiment prier et dire « Seigneur, je veux que tu me parles. J'ai besoin juste de toi, j'ai besoin d'entendre le son de ta voix. Amen. » Seigneur, on est devant toi avec l'église de l'EPI, avec tous les internautes qui sont derrière leur écran. Et Seigneur, le seul désir de nos cœurs, c'est de saisir que le nom de Jésus est si merveilleux, comme on l'a chanté. C'est Seigneur, se l'approprier, c'est saisir l'identité de Christ pour qu'elle devienne notre identité. Seigneur, je te bénis pour cette matinée. Et je sais que tu as déjà des paroles qui sont là dans ton cœur pour des gens qui sont là. Et nous voulons croire que ce matin, nous allons recevoir de toi, parce que tu es un Dieu généreux, parce que tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu rempli d'amour et de grâce. Et tu as un message pour ton église ce matin. Alors on ne veut pas passer à côté de là où tu veux nous amener, on ne veut pas passer à côté de cette matinée, parce que nous savons que tu es là, au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta présence, et à toi soit toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme vous le savez, on attaque cette série de 7 messages sur les 7 signes qui stimulent notre foi. Et on va continuer ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez la semaine dernière de ce sur quoi on a parlé ? De quel miracle ? Il y en a qui me font des gestes parce que derrière le masque, on n'entend rien en fait. Effectivement, c'est ça. C'est ça. L'eau changée en vin. Et Raymond Pierre nous avait boosté à travers ça. Et il nous avait partagé 3 choses. La première chose, c'est que Jésus s'intéresse à nos vies et veut notre bonheur. C'est que, à travers ça, on comprend ce qu'est être un disciple de Jésus, et que l'obéissance nous fait vivre le surnaturel de Dieu. L'histoire qu'on va partager ensemble aujourd'hui, ce matin, se trouve dans Jean 4, 43, 54. Et c'est ce deuxième signe. Et avant d'attaquer directement la lecture du texte, j'aime rappeler, et RP l'a fait la semaine dernière, que le but de Jean, quand il écrit cet évangile, n'est pas de faire un étalage des miracles de Jésus, mais il nous amène à découvrir qui est Jésus. Non pas les miracles, mais qui fait les miracles. La Bible nous dit dans Jean 20, 30, « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Les miracles ici nous sont donnés afin que nous puissions découvrir que Jésus est le Messie. Jésus est loin, celui qui a été choisi afin que tu aies la vie, afin que j'aie la vie. Pas simplement pour nous dire, voilà, je suis capable de faire des miracles parce que c'est une réalité, mais aussi pour te rappeler que, et comme Luc va le dire, que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il l'a consacré par onction, vous connaissez ce texte, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La Bible nous dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres, les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et c'est dans Luc qui nous est dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, et alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. En réalité, ce qu'on comprend, c'est que la thématique sur laquelle on est en train de parler va nous amener immanquablement à redécouvrir celui qui est loin pour changer ta vie. Et c'est ça qu'on veut découvrir ce matin. Amen. Alors, je réfléchissais, j'ai étudié, j'ai lu le texte de Jean chapitre 4 et je vous raconte rapidement l'histoire. Ça nous parle d'un officier, dans Jean chapitre 4, versets 43 à 54. C'est l'histoire d'un officier dont le fils est sur le point de mourir. Il va parcourir plus de 7 heures de marche, environ 30 kilomètres, pour aller à la rencontre de Jésus. Jésus va partager avec lui et accomplir le miracle à distance. Lors de son retour, avant même de voir le miracle, l'homme reprend son chemin par la foi. Et en arrivant chez lui, son fils est guéri. Et alors même où Jésus aura prononcé la parole de guérison de son fils aura été guéri. Et j'aimerais juste, avant qu'on aille plus loin, vous encourager et vous dire que parfois, on a besoin d'apprendre, même si on ne voit pas le miracle tout de suite, à marcher non par la vue, mais par la foi. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'a amené ce matin. Je ne sais pas si toi, derrière ton écran, tu es venu avec des questions. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut t'apprendre et veut nous apprendre, même si tu ne vois pas la solution de suite, à ne plus marcher en fonction de ce que tu perçois, mais en fonction de ce que Dieu dit de la situation. Et je crois que Dieu a envie de dire des choses sur nos situations. Amen. Amen. Alors un encouragement. Si tu ne vois pas le miracle tout de suite, persévère. Parce que lui, Dieu, n'a pas dit que c'était fini. Amen. On lit ensemble au verset 43. Après ces deux jours, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays d'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent un assez bon accueil, car ils étaient, eux aussi, allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tous les miracles qu'il y avait fait. On fait une petite pause. Et en fait, durant toute l'étude de ce matin, on va lire le texte et après on prendra des enseignements. Ça va? Ouais. On nous place dans le contexte où Jésus est. Jésus, il quitte la Judée. Est-ce que tu peux nous afficher la carte? Je ne sais pas si tu l'as récupérée. Je t'embête un peu, Alexandre, ce matin. Mais juste qu'on puisse comprendre ensemble que le chemin que Jésus a fait pour rencontrer cet officier. Voilà, super. Tiens, si je me décale par là, comme ça. Impeccable, nickel. Donc si vous regardez là, vous avez en bas de la carte, vous avez la Judée, et Jésus va remonter l'ensemble jusqu'à, il va passer la Samarie, remonter la Galilée, il va arriver à Cana, là où vous voyez le miracle, et Capernaum, c'est juste au-dessus, d'accord? Et il faut savoir qu'entre Capernaum ici et Cana, un petit peu en dessous ici, il y a 30 kilomètres. Donc imaginez le chemin qu'il y a entre Cana et la Judée. Pour preuve que Jésus n'est pas limité quand il veut venir nous toucher. Pour preuve que quand Jésus a quelque chose à te donner, quand il veut te parler, quand il veut te trouver, Jésus est prêt à faire des kilomètres pour te rencontrer. Amen. Et on voit que Jésus va quitter la Judée pour remonter. Il arrive à Cana, il accomplit le miracle de l'eau changée en vin. Et dans le pays où il était avant, le texte nous dit qu'il n'a pas été reçu correctement. Les gens ont douté. Et quand il arrive en Galilée, les gens lui firent un assez bon accueil. Quand on lit les commentaires, ce qui est assez interpellant, c'est que même si on dirait qu'il y a un bon accueil, Le problème de cet accueil dépend uniquement des miracles. C'est-à-dire, comme ils ont déjà vu des miracles, comme ils savent, parce qu'ils étaient à Jérusalem, ils savent que Jésus est capable de faire des miracles, le bon accueil est intimement lié au fait qu'il y ait des miracles. Et d'ailleurs, il y a un autre texte dans Jean qui nous dit que Jésus, il ne se laisse pas avoir quand les gens viennent uniquement pour le miracle. On peut lire ensemble Jean 2, 23. « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » J'aimerais juste faire une première pause, une première remarque, en disant que la raison qui nous pousse à venir ce matin, c'est quoi ? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à venir ce dimanche matin ? Il y en a qui vont me dire l'Assemblée Générale, tant mieux. Mais au fond du fond, qu'est-ce qui nous pousse ? Le message ? Ouais. Alors il y a plein de réponses, mais j'imagine que tout le monde, vous êtes venu peut-être pour vous faire du bien, pour être encouragé. Et si ce matin on disait, je ne suis même pas venu pour me faire du bien, mais je suis venu juste pour le rencontrer, et lui s'occupe du reste. Est-ce que ce matin on peut juste un instant considérer que dimanche après dimanche, on ne vient pas pour que Dieu nous donne des choses, mais on vient pour donner notre adoration à Dieu, pour le louer, l'adorer, parce que sa présence est bien assez, bien au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et ce que Jésus va reprocher ici, on va le lire dans un texte au verset 48 juste après, c'est qu'il va reprocher que les Galiléens vont l'accueillir uniquement parce qu'il fait des miracles. Et qu'est-ce qui se passe le jour où Dieu n'accomplit pas le miracle que tu attends ? Alors tu es déçu de Jésus. Tu penses qu'il n'agit pas. Parce que parfois on vient pour les mauvaises raisons. Si on est là ce matin, c'est parce que Dieu est présent. Amen. Dieu est là, Dieu a quelque chose à te dire. Dieu, son autorité, son nom, sa réalité, elle est là. Et quand on lui rend la gloire, la place qui lui revient, on découvre alors combien Dieu est bon. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ce moment où tu passes par un moment tellement difficile et tu ne sais pas comment faire. Et tu vas dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu passes cœur à cœur avec Dieu. Et tu as comme la présence de Dieu, l'amour, la grâce de Dieu qui vient t'inonder. Et même le problème par lequel tu es en train de faire face, pâlit face à la réalité de la présence de Dieu. Parce que je crois que la présence de Dieu est bien plus grande, bien plus forte, bien plus haute que l'ensemble de tes problèmes réunis et que de mes problèmes réunis. Ça ne veut pas dire qu'on les met de côté, ça veut dire qu'on change de perception. Amen. Jésus est là. On continue. Le verset 46 nous dit que Jésus retourna à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils car il était sur le point de mourir. On fait une petite pause là. Qui est cet homme ? Qui est cet officier du roi ? Eh bien, on sait ou on suppose que l'officier du roi, il est au service d'Hérode le tétrarque. Et il va venir rencontrer Jésus. Et il a parcouru 30 kilomètres pour rencontrer Jésus. Il va mettre plus d'une journée à repartir. On peut considérer qu'il a marché à peu près 7 heures juste pour rencontrer Jésus. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui pousse cet homme à venir rencontrer Jésus ? D'après vous. Qu'est-ce qui peut pousser cet homme à venir rencontrer Jésus ? La réponse est très simple en fait. C'est que son fils est en train de mourir. Et il sait très bien que Jésus a le pouvoir, la capacité, a l'autorité pour guérir son fils. Et il va faire... Il y en a qui habitent à plus de 30 km de l'église là ce matin ? Levez voir la main s'il y en a qui habitent à plus de 30 km. Ouais, je dis déjà respect d'être venu, mais est-ce que vous avez fait 7 heures de marche pour venir ? Et là, cet homme, il a fait 7 heures de marche pour venir, pour aller encore plus loin, pour rencontrer Jésus. Et même si l'officier, son seul but, il est plus intéressé par la guérison que celui qui guérit, Jésus va quand même prendre du temps avec lui. Même si le motif n'est pas bon, Jésus prend quand même du temps avec lui. Et moi, ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que tu peux venir avec les mauvais motifs, tu peux venir même pour les mauvaises raisons. Jésus est encore là pour prendre du temps avec toi. Parce que ce que Jésus veut là ce matin, c'est un cœur à cœur, une rencontre avec toi. Et peu importe si le motif n'est pas bon, peu importe si même tu as été forcé. Je me souviens d'avoir fait beaucoup de rassemblements d'ados. Et à un moment, je prêche aux ados et il y en a un qui me dit « Mais moi, de toute façon, c'est mes parents qui m'ont dit que je devais venir. J'avais pas le choix. » Tu n'avais peut-être pas le choix, mais quand tu as été confronté à la parole de Dieu, Dieu a changé ta vie. Et c'est lui qui m'a dit, j'ai quand même bien fait de venir. Parce que tu es vraiment venu tout seul, je ne sais pas. Mais comprenons bien que Dieu, sa présence, elle est là dans tous les cas. Et que quand tu es au bénéfice de sa présence, même si tu viens pour le mauvais motif, Dieu a un temps de cœur à cœur avec toi, si tu es prêt à entendre sa voix. Marcher par la foi et non par la vue, c'est venir à Jésus tel que tu es. Ça ne sert à rien de faire des façades. Vous savez, il y a un grand restaurant que j'aime beaucoup. Un grand restaurant, on s'entend. En tout cas, le grand M jaune. Je n'ai pas le droit de citer son nom, mais vous avez tous compris. Et vous savez, c'est quoi la devise du grand M jaune ? Venez comme vous êtes. Moi, je l'ai pris pour moi. Hein. Je viens comme je suis. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu rentres dans le grand M jaune, tu viens comme tu es, tu repars un petit peu différent. Un peu plus léger au niveau financier et un peu plus gros au niveau du poids. Par contre, quand tu viens comme tu es auprès de Jésus, quand tu t'approches de lui, tu gagnes sa présence. Tu gagnes son cœur. Il vient transformer ta vie. Il a un cœur à cœur avec toi. Parce qu'il est là, il est prêt. Et je sais que ce matin, Dieu a vraiment le temps. Dieu a pris le temps pour être là avec nous. Amen. Alors même si cet officier à un moment vient pour les mauvaises réponses, les mauvaises raisons, comme on le lit dans les commentaires bibliques, je crois que Jésus n'est pas limité aux mauvais motifs. Mais Jésus voit simplement la foi de cet homme. Amen. Et Jésus là, il va être un peu cash. Au verset 48, il nous est dit « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Et là, j'ai envie de dire « Mais wow, Jésus, t'es dur avec cet homme. T'as pas de compassion ? Son fils est sur le point de mourir et toi, t'es en train de lui dire, t'es en train de lui reprocher qu'il est venu peut-être pour la mauvaise raison. » Je crois que Jésus va beaucoup plus loin que ça. Jésus est simplement en train de dire à l'homme « Tu viens pour un miracle, mais moi, je vais te donner plus qu'un miracle. » Je vais te donner ma vie. Tu viens pour quelque chose qui répond à un besoin maintenant. Mais Jésus te dit, je vais y répondre, mais en plus, je vais te donner encore plus. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ce matin et qu'on puisse se poser la question, qu'est-ce que Jésus veut pour moi ? Vous vous souvenez, juste avant le passage de l'officier, juste avant, il y a l'histoire de la Samaritaine. Et la Samaritaine, elle rencontre Jésus et Jésus est sur le puits et elle lui demande de l'eau et Jésus lui répond « Mais j'ai de l'eau encore plus à te donner. J'ai de l'eau qui ne s'arrêtera jamais. Tu crois que je peux te donner du physique, tu crois que je peux te donner du matériel, mais moi je te donne encore plus que ce que tu peux imaginer ou penser. » Et j'aimerais juste vous dire ce matin, que vous puissiez garder cette pensée, que Jésus veut te donner plus qu'un simple miracle. Il veut te donner sa vie et sa vie en abondance afin que ça provoque de la transformation dans chaque département de ta vie, chaque coin de ta vie. Amen. Si tu viens à Jésus uniquement pour les miracles, tu peux être déçu. Mais si tu viens à Jésus pour sa personne, tu ne seras jamais déçu. C'est Gaëtan Brassard qui dit ça. On peut l'afficher. Dieu ne répond pas à tes prières parce que tu as assez prié ou assez de foi, mais parce que Jésus est assez. Quand Dieu ne répond pas à tes prières de guérison ou de délivrance, Jésus demeure toujours avec toi dans la maladie et l'épreuve. La grâce de Dieu est autant dans le miracle que dans le non-miracle. Arrête de te culpabiliser en te mettant la pression de provoquer le miracle. Jésus est là, dans tous les cas. Et quand on lit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de miracle. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas au miracle. Ça veut juste dire que Dieu vient nous travailler pour savoir quelle est la motivation qui nous pousse pour la rencontre avec notre Père. Amen. Marcher par la foi, c'est comprendre que Jésus veut te donner plus qu'un miracle ponctuel, mais il veut te donner sa vie en abondance. Amen. On continue ? L'officier du roi, verset 49, il nous est dit, l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Comment l'officier appelle-t-il Jésus ? On le voit, c'est écrit « Seigneur ». Pardon, le texte, excuse-moi Alexandre. Il appelle « Seigneur ». Et le verset 49 nous amène à la question de l'autorité. En tant qu'officier, cet officier du roi bénéficie d'un pouvoir légal sur Jésus. Mais cet homme ici va montrer que même si lui a de l'autorité, l'autorité de Jésus dépasse bien l'autorité dans laquelle lui-même il marche. Et je suis intimement persuadé que la dimension miraculeuse que nous voulons expérimenter dans nos vies au quotidien, la rencontre avec Christ, est une question de soumission à l'autorité de Jésus-Christ dans nos vies. dans chaque domaine de nos vies, dans chaque aspect, chaque petit coin, chaque petit recoin, dans tes doutes, tes inquiétudes, dans chaque domaine de ta vie, la réponse que tu attends, c'est te dire, est-ce que aujourd'hui, je suis soumis à la seigneurie, à l'autorité de Christ dans chaque partie de ma vie? Même cette partie que t'as pas trop envie de qu'on voit, tu sais, non, ça je le garde pour moi. Ces pensées que t'as pas envie vraiment de mettre à la lumière de Christ. Le mot Seigneur ici est traduit par curios. C'est une personne ou une chose, c'est à qui une personne ou une chose appartient. Sur quoi il a un pouvoir de décision. C'est maître, seigneur, celui qui possède et dispose d'une chose. C'est aussi le propriétaire, celui qui contrôle, qui a un contrôle sur une chose. C'est le maître. Dans un état, ça sera le souverain, le prince, le chef, voire l'empereur romain. Autrement dit, comprenons bien ici que il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que cet homme qui a une position sociale va changer sa position sociale, ne va pas considérer sa position sociale pour découvrir l'autorité que Christ a sur sa vie. Alors, la question que j'aimerais te poser ce matin, bon, je vais poser beaucoup de questions, hein, mais vous me connaissez maintenant. La question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que Jésus est sauveur et seigneur de ma vie? Est-ce qu'il y a encore dans ta vie, dans ma vie, des recoins que j'ai refusé de donner à Dieu? Est-ce que Jésus a accès à tout dans ta vie? Quand on dit qu'il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il a l'autorité complète sur l'ensemble de ta vie. Et bien souvent, je crois qu'on n'est pas prêt à tout abandonner. Même ces décisions que tu dois prendre, de dire « mais est-ce que je peux laisser entre les mains de Dieu cette décision ?» Je crois que Dieu a cette capacité à avoir toute autorité sur ta vie. Je me souviens quand on est rentré dans le ministère avec ma femme, c'était pas facile pour elle. Parce qu'elle est fille de pasteur, sœur de pasteur, belle-sœur de pasteur. Autrement dit, elle est pasteurisée complètement. Et quand je lui ai dit, ben voilà, je ressens un appel pastoral, elle m'a dit non. Comme ça, c'est fait. c'est pas évident quand même. Pourquoi ? Parce qu'elle sait ce qu'il en coûte de s'engager dans le ministère. Et on ne vous cache pas, vous le savez, ce que c'est la réalité du ministère pastoral. Et alors que Dieu vraiment a saisi son cœur et lui a parlé, elle a vécu un temps de cœur à cœur avec Dieu où Dieu s'est révélé à elle et où elle a pris la décision, elle dit « Ok, je te suivrai, j'irai là où Dieu me dit d'aller parce que c'est Dieu qui prend la décision. » Et à un moment, elle a dû capituler, elle me disait souvent et elle me le dit encore « Quand je me suis engagé, j'ai donné à Dieu une feuille blanche. Et moi, j'ai juste signé en bas. Et c'est lui qui écrit ce qu'il y a dessus. » Je crois que quand tu t'engages avec Dieu, quand tu veux marcher, et peut-être je voudrais parler là à ceux qui sont engagés dans le service. Parfois, ce n'est pas évident d'être engagé. Mais si tu dis à Dieu, « Seigneur, voilà, je mets la feuille blanche à ta disposition. Moi, je signe juste en bas. Et toi, tu fais la différence. » Alors Dieu est capable de parler. Dieu est capable de t'utiliser. Et Dieu va t'utiliser au-delà même de ce que tu peux imaginer ou penser. Pourquoi ? Parce que tu as dit à Dieu, tu es mon Seigneur, c'est toi qui prends le relais. Amen. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, sois le Seigneur de ma vie ? On chante et dans nos prières, on dit souvent le mot Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il veut dire réellement ? Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. Amen. Sois le curieux de ma vie, celui qui a autorité sur ma vie. À partir du moment où l'homme va dire Seigneur, il va accepter l'autorité. Jésus va répondre au verset 50, on peut le lire ensemble. Il va lui dire « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole de Jésus, la parole que Jésus lui avait dite, et elle s'en alla. Et là, pour moi, je trouve ça juste extraordinaire. Ça, j'aime ça. Quand Jésus dit, il l'accomplit. Si Jésus parle, il dit et la chose arrive. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dès le début de la création, Jésus a dit et les choses ont eu lieu. Et de la même façon, la parole nous dit que quand Jésus dit quelque chose sur notre vie, ça s'accomplit. La puissance des paroles de Jésus. Et moi j'ai envie de dire, Seigneur, parle sur ma vie. Dans ma situation, viens me dire ce que tu veux me dire, parce que j'ai envie d'entendre. Ce que tu veux me dire. Amen. C'est Jean Calvin qui dit, cet homme prend Jésus au mot. Voilà comment nous devrions recevoir la parole de Dieu. Prions-le qu'il touche nos cœurs afin que nous croyions ce qu'il promet, ce qu'il nous promet. Je ne sais pas comment vous vivez votre vie, mais parfois quand les temps sont longs, on a du mal à continuer à croire que la parole de Dieu est toujours la même. Quand tu es toujours dans la même situation et tu te dis, mais jusqu'où ça va aller? Tu as du mal à croire et à saisir que la parole de Dieu, c'est la même. Mais Jésus te dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et on a besoin de l'entendre ce matin. Dans ta situation, Jésus te dit et il te le redit, quand j'ai dit une phrase, quand j'ai dit quelque chose, je l'accomplis. Parce que c'est dans sa nature, il est fidèle. Amen. Moi, je me suis quand même posé une question. Jésus lui dit, vas-y, ton fils vit. Combien de temps il faut pour rentrer? On a compté à peu près 7 heures de marche. Honnêtement, pendant les 7 heures, qu'est-ce qui a dû se passer dans la tête de cet homme? Je ne sais pas, mais ça devait être long. T'imagines, tu pars sur la parole d'un homme et tu te dis, ok, tu as reconnu son autorité, d'accord, mais là tu vas marcher pendant 7 heures. Et pendant 7 heures, qu'est-ce qui se passe? Pendant 7 heures, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? Et pour moi, ça me rappelle vraiment ce moment où Dieu te donne des paroles et puis il y a le temps avant l'accomplissement de ces paroles. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je crois que même si le texte ne dit pas, on sait juste que l'homme il est reparti, donc il a marché, il a continué. Et peut-être c'est un message pour toi, tu as reçu une parole mais ça tarde. Marche quand même. Marche par la foi. Marche en fonction des paroles que Dieu t'a données. Marche pas en fonction des circonstances. Marche pas en fonction du temps que tu vois. Marche parce que Dieu t'a dit de marcher. Amen. Marcher par la foi, c'est croire que la parole de Jésus s'accomplit toujours. Juste pas forcément dans le même timing que nous. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Sept heures de marche. Moi, j'imagine que dans sa tête, ça devait tourner dans tous les sens. Mais ce qui résonne et ce qui devait résonner dans sa tête, c'est « Vas-y, ton fils vit ». Il est venu pour rencontrer Jésus. Jésus lui donne une parole. Son fils est vivant. On continue. Verset 51. « Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit ». Petite pause. Le verset 51 nous amène sur la façon dont Dieu a cette capacité à nous rassurer dans nos périodes de doute. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir sur votre chemin des personnes qui, alors que tu es dans le doute, dans l'inquiétude, viennent te donner une parole, un encouragement, une parole de foi, viennent te confirmer la parole que tu as reçue? Ça vous est déjà arrivé, ça? Comme si Dieu place sur ton chemin des personnes qui vont te booster, qui vont t'encourager avant que tu vois vraiment le miracle. Je crois que c'est le rôle de l'Église, en fait, d'être des encourageurs, de vous encourager et de s'accrocher. Je me souviens, quand on était dans l'Église où j'étais avant, parfois, je passais par des moments difficiles, et Dieu, je sais que Dieu avait mis sur mon chemin un couple d'amis proches. Et souvent, et je me souviens, ce moment très difficile où je dois faire l'inhumation d'une personne qui s'est suicidée. Là, c'est compliqué. Il y a plein de questions qui se passent dans ta tête, dans la tête des enfants. Tu dois faire très attention, être vigilant sur les mots que tu vas utiliser. Et cet ami qui vient avec moi, il m'amène là et je lui dis, écoute, je suis en stress. Je suis en stress parce que j'ai peur de dire des choses mauvaises, ça m'inquiète. Et à chaque fois, il est là, il est à mes côtés et il me dit, PS, fais confiance à ta relation avec Dieu. PS, je suis à côté de toi, je suis là, vas-y, fonce. On y va, je prie pour toi pendant que t'es sur le front. Moi, je suis derrière, je prie. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu place sur nos chemins des gens qui vont être à nos côtés pour nous encourager, pour nous booster. Réfléchis un instant, qui est cette personne qui est à côté de toi, qui peut être celui ou celle qui tient les cordes pendant que toi, tu es sur le front dans l'attente de la réponse. Et là, il y a ces serviteurs qui arrivent et disent « il est vivant, tiens bon, ça fait 7 heures que tu marches, accroche-toi parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé ». Marcher par la foi, c'est accepter que Jésus place des gens autour de toi pour t'encourager dans tes doutes. Enfin, verset 52, il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et lui dire, c'est hier à une heure de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Encore une question, simplement pour nous rappeler que Jésus n'est jamais en retard, mais que son timing n'est pas notre timing. Marcher par la foi, c'est accepter que Jésus ne soit jamais en retard, mais qu'il est son temps. Je disais dans sa parole pour aujourd'hui, c'est des encouragements qu'on reçoit chaque jour, ce texte qui disait, vous devez garder deux choses importantes à l'esprit en ce qui concerne le temps. D'abord, il y a le temps fixé, puis il y a le temps d'attente. Le temps fixé est l'heure où Dieu a choisi d'accomplir son plan à votre égard, afin d'atteindre les buts ordonnés selon son plan. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Quand on tend en attente, il parle de marche par la foi, jour après jour, de conversation avec le Seigneur et d'apprentissage à la lumière de sa parole. La différence entre le temps fixé et le temps d'attente. Je termine, parce que du coup j'ai plus beaucoup de temps, avec le verset 53. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Là où je reviens sur ce que je disais au début de mon message, c'est que Jésus va apporter plus que simplement un miracle dans cette famille. Il veut toucher l'ensemble de la famille à travers ce miracle. Il veut que ça s'étende. Il veut que la foi de cet homme devienne une bénédiction pour ceux de sa famille. Il veut qu'il y ait encore plus de personnes qui soient touchées. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin. Dieu est capable de faire un miracle sur ta vie, afin que ça te serve à toi, mais ça serve aussi à ceux qui sont autour de toi, afin que tu commences à être une bénédiction pour ta famille. Dieu est capable de faire le miracle encore aujourd'hui. Dieu agit. Marcher par la foi, c'est comprendre que ta foi peut devenir une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu récemment des miracles ou des changements dans leur vie? Je peux voir des mains comme ça qui... Ok, il y en a quelques-uns. De quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Ok, alors s'il y en a qui n'ont pas levé la main, vous allez devoir, après le culte, à la sortie, à l'extérieur, aller voir ceux qui ont levé la main et leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pour comprendre vraiment. Amen? Ok, je vous embête pas trop. J'aimerais juste arriver à la conclusion de mon message. Le second miracle de Jean nous amène à pas mal de réflexions. Et je les rappelle rapidement. Premièrement, rappelle-toi et pose-toi la question, pourquoi tu viens? Deuxièmement, est-ce que tu es prêt à ce que Jésus soit le Seigneur de ta vie? Troisièmement, est-ce que tu es prêt à ce que Jésus dise une parole et juste tu marches par la foi? Est-ce que tu es prêt à ce que ton miracle commence à bénir et à toucher les gens? C'est ça qu'on a comme enseignement, parmi d'autres choses encore. Et je terminerai avec cette dernière citation. Le miracle n'est pas causé, c'est Gaëtan Brassard, le miracle n'est pas causé par ta puissance ou ta piété. Si Dieu n'exauce pas, ce n'est donc pas à cause de ton manque de puissance ou de piété. Mais dans tous les cas, Dieu te dit encore aujourd'hui, ma grâce te suffit. Amen. Je crois que ce message est pour t'encourager à marcher, non par la foi, non par la vue, pardon, mais par la foi. Amen, on peut prier ensemble un instant? Seigneur, on est devant toi, avec parfois des doutes et des inquiétudes, avec parfois des situations qui semblent inextricables. Mais ce texte nous rappelle que tu es le Dieu qui prononce une parole de guérison sur des vies. Et que encore aujourd'hui, tu es le Dieu des miracles. Ce texte nous rappelle combien Jésus est celui qui agit, celui qui est capable de transformer les vies, celui qui est capable de venir nous rencontrer cœur à cœur maintenant. Et Seigneur, ma prière, c'est que tous ceux qui sont comme cet officier qui viennent crier à Jésus en disant « Mon fils est en train de mourir », qui viennent avec leur situation, qui viennent avec leurs doutes, leurs inquiétudes, puissent découvrir plus que simplement celui qui fait des miracles, mais découvrir celui qui fait des miracles et qui apporte la vie, qui apporte la paix, qui apporte la joie et l'amour. Découvrir vraiment Jésus-Christ tel qu'il est. Seigneur, je te remercie parce qu'encore ce matin, tu es le Dieu qui agit dans nos vies, qui n'a pas dit que c'était fini, qui n'a pas dit que les situations sont trop difficiles, mais tu places sur notre chemin des amis, des gens qui vont nous encourager pour marcher par, Seigneur, non par la vue, mais par la foi. Seigneur, renouvelle notre foi ce matin. Que nous n'ayons pas peur de crier à toi, de venir à toi, parce que tu es le Dieu qui prend du temps, qui t'arrête sur notre chemin. Merci parce que les promesses que tu as faites à l'un et à l'autre, elles sont oui et amen, elles se vérifient parce qu'elles sont dans ta parole. Seigneur, je te bénis encore de ce que ce matin, tu es là au milieu de nous et tu es le Dieu des miracles. Merci Père éternel, à toi soit toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci beaucoup, pasteur Pierre Samuel, pour ce bon message. Lorsqu'on a convenu ensemble avec l'équipe pastorale de lancer cette série, on s'est dit que, avec le contexte actuel, on avait besoin de retrouver aussi des éléments pour nourrir notre foi et notre espérance chrétienne. La crise sanitaire a fait qu'il y a eu comme une espèce de chape, tout est devenu tellement compliqué et difficile. Mais nous voulons croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'il a pour nous aussi, non seulement des paroles, mais aussi une mission. Et nous voulons nous encourager les uns et les autres dans cette parole. Merci beaucoup Pierre Samuel et merci aussi à Raymond Pierre d'avoir eu cette bonne idée de cette série. Notre culte maintenant touche à sa fin. Nous allons maintenant nous séparer de la chaîne YouTube, et nous allons pouvoir...